Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Munich n'a plus de mosquée pour ses musulmans et la situation qui était déjà critique avant l'arrivée massive de réfugiés en Allemagne devient de plus en plus intenable. En raison des normes de sécurité qui n'étaient pas respectées, la seule mosquée du centre-ville a dû fermer ses portes et les prix de l'immobilier dans la capitale du Land de Bavière freinent tout nouveau projet. Résultat, grâce à la solidarité locale, c'est dans les théâtres et dans les églises qu'ont lieu désormais les prières du vendredi. Reportage à Munich de Pauline Curté.
L'image a de quoi surprendre. Dans une salle de prière chrétienne de Munich, ornée d'une grande croix de Jésus, qui est un prophète dans l'islam, et de posters célébrant la religion catholique accrochés au mur, une dizaine de musulmans effectuent calmement la prière du vendredi. Visiblement, le décor ne semble pas les perturber. Une fois sa prière terminée, Munever Saint-Séven explique pourquoi.
Nous, les musulmans, croyons que nous partageons un Dieu avec les chrétiens et les juifs. Nous l'appelons Allah. Il lui donne un autre nom, mais c'est le même Dieu. Alors prier Allah devant Jésus sur la croix, ce n'est pas un problème pour nous. La seule condition est que Dieu ne soit pas représenté sur des images dans nos lieux de prière, puisque c'est interdit dans notre religion.
Ces derniers mois, plusieurs dizaines de musulmans ont donc pris l'habitude de se retrouver le vendredi pour prier dans des lieux chrétiens. En effet, en mai dernier, la dernière mosquée du centre-ville a fermé pour des raisons de sécurité. D'une capacité de 90 personnes, elle accueillait régulièrement entre 200 et 300 fidèles pour la prière. Comme tous les croyants n'ont pas les moyens de se rendre en banlieue, ce sont donc les églises chrétiennes du centre-ville qui ont pris le relais. Chaque mercredi, sur sa page Facebook, l'imam Ahmad Popal annonce donc l'adresse des bâtiments qui accueilleront la prière du vendredi. Une fois dans un théâtre, souvent dans des églises ou dans des salles de prière chrétiennes, l'adresse change quasiment chaque semaine. Mais Ahmad Popal veut rester positif.
Prier dans une église, c'est super, parce que c'est une maison de Dieu. C'est un lieu qui nous inspire. Les musulmans ne sont pas difficiles, ils peuvent prier partout. Mais quand on a la possibilité de se rendre dans une belle salle ou dans une belle église, on est heureux. Parce qu'on a l'impression qu'on nous donne une voix. Mais bien sûr que nous aimerions avoir un lieu à nous, car nous ne voulons pas être un poids pour les autres religions.
En attendant, prier dans des endroits différents peut aussi être un moyen de mieux s'intégrer. C'est ce que pense Sounaj Abdullah, qui a participé à la prière ce vendredi.
Bien sûr, je préférerais qu'il y ait une mosquée où se réunir, un point de rendez-vous pour les musulmans de Munich où l'on pourrait prier confortablement. Mais prier dans des endroits différents a aussi un grand avantage. On rencontre plus de gens différents lors de la prière et nous nous rendons compte qu'une grande variété de personnes veulent nous aider. C'est rassurant.
Avoir une salle ou une mosquée rien qu'à eux, c'est bien là la difficulté pour les musulmans de Munich, de plus en plus nombreux, surtout depuis 2014 et l'arrivée des réfugiés. Il faut aussi parler des prix astronomiques de l'immobilier. Faute de financement et d'entente entre les différentes associations musulmanes de la ville, dont certaines veulent faire appel au financement de pays étrangers, tandis que d'autres veulent s'appuyer sur les dons des musulmans d'Allemagne, les projets de construction de mosquées restent à l'état de projet. Ahmad Popal a un avis tranché sur la question.
Qui paie décide, alors nous préférons ne pas bénéficier d'un financement étranger. Nous voulons être soutenus par les musulmans qui vivent ici, qui comprennent notre culture, qui parlent l'allemand. Si je fais appel à quelqu'un de l'étranger, il aura d'autres idées, d'autres objectifs que le mien, musulman de Munich. Il pourrait y avoir des conflits d'intérêts et nous devons éviter cela.
La patience des fidèles pourrait cependant avoir ses limites. Au mois de juin, certains d'entre eux ont voulu organiser une prière publique sur la place centrale de Munich, la Marienplatz, pour sensibiliser les habitants à leurs difficultés. Une initiative annulée au dernier moment par les organisateurs, des militants d'extrême droite menacés de les déloger de force.
Gérer globalement la crise migratoire avec l'Europe et l'Afrique, c'était à nouveau l'objectif très ambitieux du mini-sommet qui s'est tenu à Paris fin août. Sans utiliser le mot « hotspot », il est clair que l'Europe souhaite identifier dès le Tchad ou le Niger les migrants qui auront le droit à l'asile. En Libye, ce sera plus difficile étant donné les conditions déplorables de détention des migrants. En attendant, plusieurs pays européens comme l'Italie sont sous pression et réclament plus de solidarité européenne. Alors dans ce contexte, où en est-on de la crise migratoire? Pour en parler, on retrouve Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Après l'accord conclu avec la Turquie et les renforcement des gardes-côtes, le flux de migrants a diminué de 81% en Méditerranée, a affirmé le président de la Commission européenne cette semaine. Et pourtant, Daniel, ces traversées sont toujours aussi mortelles.
Hélas, oui, Frédéric. 3700 migrants avaient péri en Méditerranée en 2015. Ils étaient plus de 5000 en 2016, alors même que le nombre de personnes traversant la mer sur des embarcations de fortune avait été divisé par 3. Et cela ne s'arrange guère puisque de janvier à juillet 17, 114 000 migrants ont traversé, soit un rythme inférieur de 45% à celui de l'an dernier. Et pourtant, depuis janvier, on dénombre déjà 2400 victimes, chiffre à peine inférieur à 2016.
Et comment expliquer qu'il y ait autant de morts ?
Sans nul doute par le renforcement des contrôles qui poussent les passeurs à faire prendre de plus en plus de risques aux malheureux qu'ils transportent. On constate notamment une diminution de la taille des embarcations de fortune afin de les rendre moins facilement repérables. Certains passeurs vont même jusqu'à faire sombrer les bateaux dès qu'ils aperçoivent un navire. Cela a déterminé les ONG, dont la flotte représente désormais plus du tiers des moyens de sauvetage, à aller chercher de plus en plus loin les réfugiés. Les autorités italiennes, dont le pays est en première ligne, protestent contre cette stratégie proactive, susceptible d'encourager les passeurs. Bref, la situation est catastrophique au plan humanitaire, même si le flux de réfugiés ralentit.
Et les routes maritimes qu'empruntent les réfugiés ont aussi changé.
C'est vrai, l'accord intervenu en mars 2016 entre la Turquie et l'Union européenne a pratiquement tari les arrivées dans les îles grecques. De décembre 2015 à février 2016, 200 000 personnes avaient accosté en Grèce. Un an plus tard, sur la même période, ce chiffre a été divisé par plus de 50. Autre phénomène récent, face à l'activisme des gardes-côtes libyens, le pays ayant été dûment sermonné par l'Europe au début de l'été, un certain nombre de migrants en provenance de l'Afrique sahélienne se détournent vers le Maroc et tentent de gagner l'Espagne ou les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Ainsi, entre janvier et juillet 2017, 7600 réfugiés ont débarqué en Espagne, trois fois plus que sur la même période de l'an dernier. L'Espagne n'est pas loin d'accueillir autant de réfugiés que la Grèce. Cependant, l'Italie reste de très loin en première ligne, puisque à fin juillet, près de 100 000 personnes avaient débarqué dans la péninsule. Et Rome n'a toujours pas obtenu que la France et l'Espagne ouvrent leurs ports de Marseille et de Barcelone aux navires humanitaires qui ont recueilli des migrants et n'ont donc à ce jour d'autre choix que d'accoster en Italie.
Et où en est-on au niveau de l'accueil des réfugiés en Europe ?
Comme je vous le disais, les flux sont en baisse. L'Allemagne reste toujours, et de loin, le premier pays d'accueil avec plus de 470 000 demandes à fin juin, mais le chiffre est en baisse de 21% par rapport à décembre. À l'inverse, l'Italie instruisait à fin juin 135 000 demandes, soit 35% de plus en 6 mois. Fin juin, 45 000 demandes d'asile étaient en instruction en France, soit trois fois moins qu'en Italie. C'est moins qu'en Suède et moins qu'en Autriche, pays dont la population est respectivement de 10 et 9 millions d'habitants.
Mais ces chiffres donnent-ils, Daniel, la mesure d'ouverture du pays ?
Non, car les dossiers instruits sont fonction des demandes d'asile qui illustrent ou bien l'attractivité d'un pays, c'est le cas de l'Allemagne, ou bien le lieu d'entrée dans l'Union européenne, qui est la plupart du temps l'Italie. En fait, le degré d'ouverture d'un pays apparaît en comparant le nombre de demandes d'asile faites en 2015 au nombre de décisions positives prononcées en 2016, qu'il s'agisse d'un statut de réfugié ou d'une simple protection subsidiaire qui permet d'obtenir une carte de séjour d'un an renouvelable. Selon ces critères, l'Allemagne s'est montrée de très loin le pays le plus accueillant, puisque les décisions positives de 2016 représentent plus de 90% des demandes d'asile de l'année précédente. Des pays comme l'Italie ou la Suède prennent un peu plus de 40% de décisions positives. Quant à la France, elle n'en prononce que 38%.
Merci Daniel Vigneron, à très bientôt.
À bientôt Frédéric.
À La Croatie veut vraiment en finir avec les symboles de son passé socialiste. À Zagreb, le maire qui a passé un accord électoral avec l'extrême droite a tout simplement débaptisé la place Tito du nom de l'ancien dirigeant communiste yougoslave. Une décision politique et controversée. À Zagreb, Simon Rico.
Le 30 août, le conseil municipal de Zagreb a donc voté par 29 voix contre 20 le changement de nom de la place Tito, qui s'appelle désormais place de la République de Croatie. À l'origine de cette décision controversée, un marchandage politique assez douteux. Réélu de justesse début juin, le maire Milan Bandic a jugé bon de s'allier à la formation d'extrême droite tout juste créée par Zlatko Hasanbegovic, l'ancien ministre révisionniste de la culture. Pour s'assurer une majorité tenable, le maire englué dans les affaires de corruption, a donc accepté de soutenir l'une des propositions phares de son nouvel allié pendant la campagne électorale. Il faut dire que les élus nationalistes avaient fait de ce changement de nom une condition sine qua non de leur ralliement. Depuis le retour au pouvoir de la droite début 2015, la Croatie est engagée dans une révolution conservatrice sur le modèle polonais qui vise à éliminer tous les symboles du passé socialiste yougoslave. Aux yeux des nationalistes conservateurs, le maréchal Tito est en effet un dictateur qui a opprimé le peuple croate pendant un demi-siècle et commis des crimes impardonnables. Pourtant, des milliers de personnes ont manifesté à plusieurs reprises pour réclamer le maintien de la place Tito au nom de l'héritage antifasciste inscrit dans la Constitution nationale. Aujourd'hui, la Croatie est un pays coupé en deux camps qui semblent plus que jamais irréconciliables. L'ancien président Ivo Josipovic a ironiquement tweeté qu'il fallait conserver les plaques au musée pour pouvoir les réinstaller après les prochaines élections quand la place Tito retrouvera son nom. Depuis l'indépendance de la Croatie en 1991, de nombreuses rues et places qui portaient les noms de résistants communistes se sont vues rebaptisées et environ 3000 monuments antifascistes ont été partiellement ou entièrement détruits.
La tauromachie n'a plus forcément la cote en Espagne. Les associations de défense de la cause animale multiplient les campagnes et les manifestations contre une tradition qu'ils assimilent à la torture. À Madrid, l'école de tauromachie José Cubero, qui a formé par le passé les plus grands toreros, est en crise. La municipalité proche de Podemos lui a retiré toutes ses subventions. Elle ne survit que grâce aux aides de la région, dirigée par les conservateurs. Reportage de François Musso à l'Alparado, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Madrid, où les jeunes élèves veulent encore croire en leur passion.
Une étrange scène se déroule sous nos yeux. Sur ces arènes au sable très ocre, des adolescents se livrent deux par deux à un exercice. L'un joue le rôle du torero, droit, raide, avec sa muleta rouge, et l'autre joue le rôle du taureau, brandissant des cornes en carton-pâte. Il s'agit d'apprendre à faire des passes tauromachiques, à éviter les attaques, et aussi à tenter de savoir comment se comporte l'animal pendant une corrida. Raphaël De Julia, 38 ans, est le professeur principal.
En jargon tauromachique, cela s'appelle hacerse un toro, jouer au taureau. Cela fait partie de l'apprentissage quotidien, en plus de se soumettre aux exercices précis qui vont se réaliser ensuite face au taureau. Bien sûr, chacun y met son style, ses formes, sa personnalité. L'entraînement, il est vraiment utile et efficace quand chacun se concentre, et il faut que ce soit comme si c'était dans l'arène pour de vrai.
Rafael de Julia n'avait que 12 ans lorsqu'il a été sacré matador de toros, c'est-à-dire torero. En 2013, il a préféré stopper sa carrière pour se consacrer à l'enseignement. Il est conscient que les temps changent, que les critiques s'accentuent, mais il vit dans son monde. La vie pour lui, c'est la tauromachie.
C'est une vocation pour moi, il ne faut pas avoir de doute. Il ne faut pas seulement se dire « oui, cela me plaît », ça ne suffit pas. Pour être torero, cela ne peut pas te plaire, cela doit te passionner. C'est sûr, c'est un métier extrêmement difficile dans lequel il est rare de voir ses rêves exaucés. Mais il faut partir de cette base, de cette conviction intime.
Et cette passion, Raphaël tente de l'inculquer à des enfants, à des adolescents qui, il l'espère, seront plus tard des toreros. Ici, dans cette arène, à l'Alpardo, il y a des jeunes qui viennent se familiariser avec la pratique tauromachique, même s'il n'y a pas d'animaux, et aussi des élèves de l'école José Cubero. Parmi eux, de véritables espoirs, qui rêvent d'être un jour des Juli, des Enrique Ponce, des José Tomás ou des Sébastien Castella. Juan José Villa n'a que 16 ans, il a été repéré par Raphaël. On le surnomme Villita.
Cela fait 8 ans déjà que je suis dans cette école et je ne regrette pas ce choix. Je savoure tout ce que je fais ici. Mon père était banderillero. Moi, depuis l'enfance, j'ai le taureau dans la peau. On me l'a inoculé comme une drogue. J'ai toujours voulu être torero, ce que je suis aujourd'hui.
Villita est châtain clair, petit, mince. Il dit que dès l'âge de 8 ans, il a décidé de consacrer sa vie à ce qu'il appelle un art. Il se montre sur la défensive. Il sait qu'une bonne partie de la société espagnole n'accepte plus ce spectacle, perçu comme extrêmement cruel par deux tiers des moins de 35 ans.
Moi, je n'y vois rien de cruel. C'est un spectacle très ancien. Je crois en plus qu'il est beau. Les gens raffolent, ils viennent nous voir. En fin de compte, ce ne sont que des animaux. Et aucun autre n'a une vie aussi agréable que le taureau. Comme on nous attaque constamment, on doit se défendre dans les médias. Dire que nous ne faisons rien de sauvage, rien d'anormal. Cela se pratique depuis 200 ans. Et on n'a jamais rien dit. Moi, ça m'amuse de voir les gens qui vont promener leurs chiens tranquillement, alors que nous, on risque notre vie.
Dans cette bourgade, l'environnement social est très favorable. Mar est la patronne du café-restaurant La Taberna.
La population est très proche de la culture de la tauromachie. Il n'y a pas d'opposants, il y a un consensus. D'ailleurs, il y a une école taurine ici qui forme les enfants dès l'âge de 3 ans. Toute l'année ici, il y a plein d'événements gratuits, des présentations d'élevage et puis les corridas à proprement parler, notamment pendant la Sant Isidro. Ces événements sont financés par la mairie. C'est la tradition, c'est la fête de l'Espagne.
Pourtant, chacun ici sait qu'on évolue dans une bulle. Une partie de l'Espagne rurale aime toujours les spectacles taurins, souvent subventionnés, comme ici, par les impôts locaux. Mais ailleurs, et surtout dans les villes, le rejet augmente de façon constante. Dans cette école, on veut croire que l'esprit du temps n'emportera pas leur passion.
Dans le quartier chic de Kensington, à Londres, en bordure d'Hyde Park, la salle de concert Royal Albert Hall est en pleine mutation. Son nouveau directeur veut donner une nouvelle jeunesse à cette imposante maison ronde de briques rouges. Fini la rigueur victorienne, le Royal Albert Hall veut vivre au rythme du 21e siècle à Londres, Marie Billon.
Comment transformer un austère mais majestueux monument victorien en un lieu de sociabilité? C'est le défi que s'est lancé le nouveau directeur du Royal Albert Hall, Craig Assall. Il marche en partie sur les pas de ses prédécesseurs car des travaux ont déjà commencé en mai dernier. Des ouvriers creusent le sol pour créer un nouvel espace. Il y aura notamment une galerie, ou plus exactement le Royal Albert Hall Hall of Fame, où seront exposées entre autres les photos de concerts d'artistes ayant joué et chanté en ces lieux, des plus grands chefs d'orchestre et musiciens à Janis Joplin et Ed Sheeran. Craig Assall veut aussi que le hall vive à toutes les heures du jour et de la nuit, du petit-déjeuner au verre d'après-concert, et il compte donc multiplier les cafés à l'intérieur, chic ou branché selon le public visé. Ce grand réaménagement va coûter l'équivalent de 40 millions d'euros, car le Royal Albert Hall n'est pas juste une salle d'opéra, il accueille bien des concerts classiques, les fameux BBC Prom notamment, mais aussi des concerts pop-rock, le Cirque du Soleil ou encore du tennis. On y trouve aussi parfois une silent disco, une discothèque muette, car chacun écoute la musique dans ses écouteurs. Pour financer tout cela, impossible de se reposer uniquement sur les gentils donateurs, le Royal Albert Hall va recourir, comme nombre d'institutions culturelles, au merchandising. Des bouteilles de gin à la forme du bâtiment, des torchons, des guirlandes de Noël avec des petits Albert Hall, pour que le bâtiment retrouve une place dans le cœur des Britanniques et des touristes, et aussi sur leurs étagères. En 2021, le Royal Albert Hall, entièrement rénové, fêtera ses 150 ans.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, et sur les réseaux sociaux. À demain.